Est-ce que vous êtes prêts?
J'attendais ce moment avec impatience.
Attention.
Qu'est-ce qu'il y a?
Un.
Bonjour.
Deux.
Bonjour.
Trois.
Eh bien, je vous écoute.
Parfait. Vous savez pourquoi nous sommes ici?
J'écoute, qu'est-ce que vous avez à me dire?
Surtout pas d'illusions.
Qui dois-je annoncer?
Cinérama.
Oui, j'ai entendu parler de ça.
Charmé de vous connaître.
Ça fait plaisir. J'ai besoin de savoir ce que signifie cette histoire.
J'ai le sentiment très net que vous tournez autour du pot.
Que désirez-vous faire?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
C'est aussi simple que ça.
Je n'arrive pas à le croire.
Vous êtes différent.
Ravi de vous l'entendre dire.
Qu'est-ce que vous attendez? Un roulement de tambour?
Vous n'avez pas tout à fait tort.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama, une demi-heure pour parler cinéma. Alors, il y a plusieurs manières de parler de cinéma. Nous, on a choisi de faire des chroniques. Parfois, on a des interviews et on a souvent des blind tests. Et c'est le cas aujourd'hui. On va jouer avec la filmographie de Jonathan Cohen, puisque le comédien français est dans le dernier film du duo Eric Toledano et Olivier Nakache, Une année difficile. Bonjour Manu.
Bonjour.
Alors toi, tu vas nous parler bien d'un film qui pourrait être attendu.
Qui est attendu quand même, puisque c'est la suite du film de Friedkin, hein, qui fête donc ses 50 ans, L'Exorciste. Et donc là, c'est L'Exorciste Devotion, ou Dévotion, on va dire.
Quant à Marine, elle va nous parler bien d'Une femme sur le toit. C'est un film polonais, alors, dont la diffusion est assez confidentielle. C'est pourquoi elle a décidé de nous donner le goût, pourquoi pas, de voir d'autres films polonais, en faisant un petit rappel sur ce qu'est le cinéma polonais actuellement. Mais nous allons commencer avec un film, 50 ans après L'Exorciste, film qui a marqué l'histoire. Voici L'Exorciste Dévotion.
Bah oui, c'est le film, et le film est bien.
Cinérama.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça?
Et voilà vos filles, Angela et Catherine. C'était il y a 7 heures et c'est la dernière information qu'on ait.
Catherine!
Angela?
Si vous entendez ce message, on vous aime, rentrez à la maison.
La véritable dévotion, hein, c'est bien celle du pauvre spectateur lâché dans la salle, contraint de subir les 2 heures de cette suite directe de l'original, après 4 opus rayés de l'imaginaire collectif. Alors un épisode pétri de bonnes idées, mais qui rate quasiment tout ce qu'il entreprend dans son élan de déconstruction et d'innovation. Alors en amont, j'ai revu le film de William Friedkin, toujours aussi impeccable, droit dans ses bottes, alors un modèle de mise en scène et d'écriture, alors dénué de la moindre trace d'humour et de fantaisie. Donc L'Exorciste version 73 frappe par son austérité, et s'il parvient encore à faire peur, même si l'on est finalement athée, une raison s'impose. Friedkin y croit à fond, en catholique torturé, obsédé par la notion de mal. Il prouve en tout cas qu'il n'est pas nécessaire d'adhérer à une religion pour être saisi à l'écran par des visions chrétiennes d'une incarnation visuelle très forte. Alors le choix de David Gordon Green derrière la caméra pour cette suite n'est pourtant pas si bête. Il a réactivé ou enterré, pour certains fans, la franchise Halloween avec un inégal bonheur, réussissant, à mon avis, 2 opus quand même de très bonne facture, le 2 et le 3, alors après une entrée en matière complètement ratée, ce qui est peut-être une des rares mais essentielles raisons peut-être de se rassurer à la vision de cet exorciste New Look, décliné également sous la forme d'une trilogie. Oui, il y en a 2 autres qui vont venir. Alors donc, peut-être que la suite sera à la hauteur des espérances en rectifiant le tir de ce très mauvais film qui nous occupe. Donc suite officielle, le film situe logiquement les événements 50 ans plus tard. 2 jeunes filles, Angela et Catherine, disparaissent dans une forêt en sortant du collège avant de réapparaître mystérieusement 72 heures plus tard. Elles n'ont aucun souvenir de ce qui a pu leur arriver, ayant l'impression de s'être égarées quelques heures seulement. Alors que leur est-il arrivé? Le film ne l'expliquera pas directement via des flashbacks. Cette volonté finalement de laisser du hors-champ reste sans doute le point positif du long métrage, laissant au spectateur le loisir d'imaginer le pire. Après examens médicaux poussés, les 2 ados ne présentent aucun symptôme physique et psychologique, comme d'ailleurs Regan dans le film de Friedkin. Mais rapidement, elles se comportent comme si elles n'étaient plus elles-mêmes, refrain connu, sauf pour celui ou celle qui n'aime pas les films d'horreur ou qui a vécu dans une grotte pendant 30 ans. Le père d'Angela, le personnage central, qui est d'ailleurs athée, convaincu, va devoir remettre en cause ses convictions pour affronter les forces maléfiques qui se sont emparées de sa fille.
Je sais pas où elles sont allées, mais elles ont rapporté quelque chose avec elles.
Le corps et le sang de Jésus-Christ.
Malgré son rythme apathique, hein, pendant 30 minutes, on y croit vaguement. Hein, le récit ouvre des perspectives intéressantes qui ne seront bien sûr jamais développées. Et puis, David Gordon Lewis cumule les mauvais choix narratifs inexplicables, donnant parfois l'impression d'assister à une parodie. Les personnages ne cessent de se contredire, de faire des choix absurdes, de changer d'avis d'une séquence à l'autre, sans que rien ne puisse le justifier. Le syndrome du yo-yo finit par assommer le spectateur le plus indulgent à accepter ce qu'on nomme parfois la suspension d'incrédulité, soit la capacité particulière de notre cerveau à accepter les situations les plus invraisemblables, à mettre en pause notre jugement critique. Alors honnêtement, on va dire que pour la plupart des slashers, par exemple, même les plus idiots, j'y arrive. On peut y arriver assez facilement. Et là, non, pourquoi ? Alors, peut-être, sans doute, parce qu'à l'origine, il y a une véritable ambition, formelle et même narrative, hein, des pistes intéressantes. On sent derrière ce scénario imbitable une volonté de parler du chaos d'une Amérique fracturée, qui a perdu le sens du bien commun, qui a favorisé l'individualisme, au détriment de la communauté, du vivre ensemble. Alors, l'un des mauvais choix d'un personnage étaye d'ailleurs cette orientation à la fin. Je n'en dirai pas plus. Hein. David Gordon Green semble aussi faire des efforts constants pour ne pas sombrer dans le délire catho porn à la Conjuring, mais souvent, malheureusement, au détriment du récit.
Bip. Bip. C'est le battement Bip. De son cœur.
Il bat à l'unisson.
Dieu t'a joué un sale tour.
Alors de plus, en dépit d'un montage un peu neurasthénique, le monteur a dû s'endormir sur la table de montage, le film est bien filmé et photographié, sauf qu'il oublie tout le reste, et d'abord de nous scotcher à notre fauteuil. Le suspense est à deux tensions, les dialogues n'ont souvent aucun sens, et le climax final se vaut dans le ridicule, au point que l'on guette l'apparition de Leslie Nielsen. Leslie Nielsen, c'est Y a-t-il un flic pour sauver la reine, et qui avait fait une sorte de parodie de l'exorciste à une époque. À noter l'inévitable caution féministe présente aujourd'hui dans tous les films d'horreur, tant mieux dans un sens. Hein. Lors d'une séquence taquine, le père d'Angela demande à la mère de Reagan, toujours en vie, interprétée par la même actrice, Ellen Burstyn, si elle avait assisté à l'exorcisme de sa fille. Elle lui répond avec un sourire en coin, non bien sûr, vous savez bien que le patriarcat à l'époque était dominant. Alors, moi je veux bien la réplique, mais elle est un peu what the fuck, parce que franchement ce n'est pas du tout la raison, c'est parce qu'elle n'était pas prêtre qu'elle était mise de côté, et qu'un exorcisme, c'est pas un truc qu'on fait comme ça tous les jours. Donc c'est un peu bizarre, et ça rend bien compte un peu de l'incohérence quelque part du projet qui essaye de rattraper des wagons du cinéma contemporain en salissant un petit peu le film d'origine, parce que ce n'est absolument pas ça. Bon voilà, c'est bien dommage, mais le film est quand même raté, c'est pas vraiment un film d'horreur. C'est presque une horreur, mais c'est pas tout à fait la même chose.
Voilà, donc on peut rester sur l'exorciste, celui de 1973. Oui.
Mais j'y crois quand même pour les deux autres, sait-on jamais, quoi. C'est-à-dire que là, j'étais déçu, mais bon, il peut y avoir une bonne surprise.
Bon, eh bien, tu reviendras nous parler des deux autres qui vont arriver dans les prochaines années. Et on va rester bien peut-être sur l'exorciste de 1973. On va se faire plaisir avec la bande originale, puisque elle fait plaisir.
Et puis, elle est reprise dans le film, évidemment. Ils ne vont pas s'interdire ce petit plaisir, mais ils l'ont réorchestré de manière un peu étrange. Hein. On dirait un truc symphonique, très lambda, et ce qui est un peu dommage parce que l'original est vraiment formidable.
Parlions de l'exorciste Devotion, ou Dévotion, comme on avait prévu de le dire. C'est un film qui est en salle depuis le 11 octobre. Une femme pour qui tout semble bien aller se lève et va braquer une banque. C'est Une femme sur le toit, film polonais dont nous parle Marine.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va garder ça. Mirka est une femme polonaise à la vie difficile, comme bon nombre de ses concitoyens. À la situation économique compliquée que son pays, la Pologne, traverse et que son foyer en particulier subit, s'ajoute un statut de femme dévouée, voire soumise, qui la prive de liberté et de plaisir. Son fils vit encore chez elle, son mari la considère comme sa femme de ménage, et quand elle ne prend pas soin de sa famille, elle prend soin d'autres familles, puisqu'elle est sage-femme. Mais c'est en voulant nourrir ses poissons que quelque chose se fissure, un matin en elle. La boîte de nourriture est vide, il faut en racheter et Mirka n'a plus d'argent. Alors elle prend un couteau et sort pour aller braquer une banque. Sa tentative de hold-up va tourner court et la police ne tarde pas à venir la chercher à son domicile. Pour Mirka, c'est tout son monde qui s'effondre. Et si finalement cet acte fou était le point de départ d'une libération ? En voyant les premières images, on craint qu'une femme sur le toit ne soit misérabiliste, ne soit triste, mais c'est en fait un film surprenant, le film d'une renaissance, un film qui contient une joie que les premières scènes ne laissent pourtant pas soupçonner. Pour la réalisatrice Anna Jadowska, Mirka va enfin commencer à rompre le silence de sa vie, elle qui n'a jamais eu d'avis, de goût, de préférence, prouvant ainsi qu'il n'est jamais trop tard pour s'exprimer. Toujours selon la cinéaste, la situation des femmes en Pologne demeure très difficile puisqu'elles sont condamnées, entre guillemets, par le poids des mœurs et des coutumes et qu'elles doivent demeurer, coûte que coûte, les gardiennes du foyer. Pas d'introspection, de remise en question, aucun égard envers soi-même, seule une routine bien huilée qui ne laisse aucune place au plaisir occupe les journées de Mirka. Pour la sexagénaire, cette situation est évidente et elle n'a même pas l'idée de la remettre en question. Et en braquant une banque avec un ridicule couteau de cuisine, eh bien elle va subitement tenter un acte extraordinaire au sens littéral du terme. Une femme sur le toit est un film sombre dans son sujet, mais particulièrement lumineux dans sa filmographie. Les plans brillent par leur cruauté et par leur beauté. Le personnage principal est sans cesse nimbé de lumière. Un personnage incarné par l'actrice Dorota Pomicata qui a reçu le prix de la meilleure interprétation au festival de Tribeca. Un festival qui par ailleurs ne genre plus ses prix d'interprétation. Dorota Pomicata qui est une actrice connue en Pologne, notamment pour ses rôles solaires et joyeux. Elle a fait beaucoup de théâtre et de télévision. Dans Une femme sur le toit, elle incarne magistralement la femme polonaise à un âge 60 ans. Très peu représenté au cinéma.
Une femme sur le toit est un film en salle depuis le 18 octobre. C'est un film qui passe dans très peu de salles. C'est pour ça que Marine a choisi de nous parler du cinéma polonais. Ça pourrait vous donner des idées.
Si relativement peu de films polonais arrivent dans nos salles françaises, eh bien figurez-vous que le cinéma polonais au sens large du terme est extrêmement ancien, car il a commencé avec l'invention du pléographe par Kazimierz Prosiński en 1894, avant même le célèbre cinématographe des frères Lumière. Le premier grand nom du cinéma polonais, ce sera Andrzej Wajda, à ne pas confondre avec Agnès Varda, ça n'a rien à voir, qui dès ses premiers films en 1955 va rompre avec le réalisme socialiste prôné à l'époque par le Parti communiste. Son premier film, Une jeune fille à parler, sera considéré comme le point de départ de la grande vague de films de l'école polonaise de cinéma. En 1972, grâce à ses succès obtenus entre autres au Festival de Cannes, Wajda devient le président de l'Union des cinéastes polonais. Il fera partie dans les années 60 de l'émergence de la nouvelle vague de cinéastes polonais venus de l'école de Lodz, des jeunes hommes qui dépassent, transgressent les codes de la mise en scène traditionnelle, osent aborder des sujets contemporains, et parmi eux, un certain Polanski.
Już nie mów, nie mów, nic, nie mów, nic. Już nie patrz, tak pozwól iść.
Le couteau dans l'eau, son premier long métrage, est un grand succès. À l'international, il remporte le prix spécial au Festival de Venise et ne sera pas du goût du Parti communiste polonais. Polanski quittera donc la Pologne pour la France. Et ça ne sera pas son dernier déménagement, hein, puisqu'il ira ensuite aux États-Unis, qu'il fuira après avoir été reconnu coupable de viol pour venir se planquer en Suisse, un véritable globe-trotteur. Jerzy Skolimowski sort lui aussi de l'école de Lodz et se fait remarquer au Festival de New York avec ses premiers courts-métrages montés ensemble pour ne former qu'un seul long. Ses films suivants, Walkover, La Barrière et Haut les mains, le conduiront tout droit vers la censure également. Et comme son compatriote Polanski, il quittera la Pologne. La censure exercée en interne à l'école de Lodz jusque dans les années 80 va beaucoup altérer la production cinématographique polonaise en interdisant, par exemple, tous les sujets liés au peuple juif. Le secteur du cinéma va être réformé, les jeunes réalisateurs bloqués, la distribution de certains films également. Mais faisons maintenant un bond dans le présent. Où en est le cinéma polonais de nos jours? Avec le retour à la liberté en 1989, avec la chute du communisme, la cinématographie d'État a cessé d'exister. Le cinéma s'est enfoncé dans la crise et nous voilà témoins de sa renaissance. Cette phrase, Andrzej Wajda l'a prononcée après que Paweł Paliwowski ait reçu l'Oscar du meilleur film étranger pour Ida. Paweł Paliwowski, qui après 4 films tournés en Pologne, se fera connaître en réalisant My Summer of Love en Angleterre, avec notamment la débutante Emily Blunt.
C'est la mort du cygne de Saint-Saëns. Les cygnes, j'habite au-dessus. Le pub.
Tu vis dans un pub?
Oui. Mais maintenant, c'est plus un pub, c'est plutôt comme un temple. C'est à mon frère. Il a trouvé Dieu. Ou c'est Dieu qui l'a trouvé. C'est un nouveau converti. Le pub, c'est plus un endroit pour la bière, c'est un endroit pour la prière. Enfin, ce soir, ils ont encore un de leur loto du converti, alors j'ai préféré me tirer.
Fort de ce succès, il revient dans son pays natal pour y tourner le fameux Ida, donc puis Cold War, prix de la mise en scène au Festival de Cannes en 2018. Un autre cinéaste polonais contemporain remarqué outre-Atlantique, c'est Jan Komasa, dont le film La Communion sera nommé en 2020 aux Oscars, l'histoire d'un jeune délinquant qui se fait passer pour un prêtre incarné par l'acteur Bartosz Bilenia, totalement habité. Alors il n'y a pas énormément de réalisatrices dans le cinéma polonais, mais on peut citer tout de même Dorota Kobiela, une réalisatrice qui s'est illustrée dans le cinéma d'animation avec le film entre autres La Passion de Van Gogh, auquel Pierre Niney prête sa voix.
La Firavu dit qu'il se sentait bien ici.
Oh, et elle est tout à fait qualifiée pour ce genre de diagnostic.
Non, mais elle le voyait tous les jours et il semblait calme et normal.
Peut-être qu'il semblait normal. Peut-être même qu'au début il l'était.
Voilà. Il est arrivé.
Quitter l'asile lui a donné de nouveaux espoirs. Il ne demandait pas grand-chose, seulement de pouvoir travailler chaque jour et de trouver un peu d'amitié.
Et puis la doyenne du cinéma polonais, c'est Agnieszka Holland, active depuis 1977, qui a récemment réalisé le très bon L'ombre de Staline, qui traitait de la famine en Ukraine, le tragique Holodomor. Son dernier film, Green Border, qui aborde la question migratoire, lui a récemment valu une campagne de calomnie dans son propre pays, pays aux mains désormais de l'extrême droite. Un virage politique extrémiste qui, malheureusement, dans quelques pays que ce soit, n'annonce jamais rien de bon pour l'art en général et pour le cinéma en particulier.
Voilà, nous avons fait le tour du cinéma polonais avec Marine, puisque nous parlions d'une femme sur le toit. Maintenant, on fait bien tout autre choix. Nous parlons d'une comédie sur le surendettement. C'est le nouveau film d'Éric Toledano et Olivier Nakache, Une année difficile.
J'ai des exos pour les meilleurs films qu'on passe en ville.
Cinérama, parfait, judicieux, simple et logique.
J'ai le sentiment que les dettes, les crédits, tout ça, ça vous est familier.
La situation n'est pas très brillante. Et si ça peut vous rassurer, on n'est pas vraiment encore au fond. On n'est pas loin. Mais on n'y est pas encore.
Franchement, ça me rassure énormément.
Une année difficile est le 8e long métrage du tandem Éric Toledano et Olivier Nakache qui font eh bien, ce qu'ils ont toujours fait, de la comédie. Un film qui arrive après un break, celui occasionné par la réalisation de la série En Thérapie qui a eu son petit succès. Le dernier film qu'on avait vu d'eux était Hors Normes, qui nous plaçait avec Vincent Cassel et Reda Kateb aux côtés d'enfants et d'adolescents autistes. Une dimension sociale pour des cinéastes qui ont toujours eu ce réflexe. Pour Une année difficile, il lie le politique et le social avec des enjeux de notre époque. soit deux hommes, Albert et Bruno, interprétés par Pio Marmaille et Jonathan Cohen, qui sont des victimes d'une société de consommation. Alors plutôt que de manquer de quoi que ce soit, les deux hommes ont fait crédit sur crédit et se sont surendettés. Ces deux-là sont un peu différents. L'un vit des petits trafics, l'autre est au bord de la dépression. Ils vont se rencontrer par hasard et vont s'accompagner dans des réunions d'écolos pour y grappiller des chips et de la bière, ou dans les réunions d'aide aux personnes victimes de surendettement animées par un Mathieu Amalric, accro au jeu.
Si vous voulez boire des coups et parler justice sociale, là on est à la ruche.
J'y vais. Attends, tu veux pas boire un coup? Je t'invite. Puis la ruche, c'est très sympa, c'est gratuit en plus. Donc toi, tu m'invites, mais c'est gratuit?
Ouais. C'est exactement ça.
Le film avance donc avec ce duo que finalement tout semble réunir et chemine par le contraste avec ces deux assoiffés de consommation opposés à des militants écologistes qui mettent en garde contre le réchauffement climatique, mais pas seulement. Il est aussi question de la surconsommation de nourriture et de la surconsommation tout court dans une séquence d'ouverture qui met en scène l'ouverture d'un magasin lors d'un Black Friday. La séquence est présentée au ralenti avec un Brel qui nous chante la valse à mille temps. Cette séquence, eh bien, elle aura de multiples résonance, c'est un élément dramaturgique car on y voit deux personnages qui tentent de se rapprocher, celui d'Albert interprété donc par Pio Marmaille et celui interprété par Noémie Merlan. L'actrice joue une militante dure de dure, on dirait presque extrémiste, hein, vivant sans meubles et tentant même de se détacher des sentiments, ce qui n'est pas du goût d'Albert évidemment. Cette histoire motive les personnages comme le récit qui est porté par les solutions que trouvent les deux compères pour se tirer d'affaire tout en nous faisant croire et bien qu'ils sont devenus de véritables militants écologistes.
Certains prévoient 45 degrés en 2050.
Je suis désolé, c'est un traquenard.
Peut-être que vous êtes simplement venu boire une bière gratuite.
Nous, on est vraiment venus pour parler justice sociale avec mon copain.
Excuse-moi, tu peux mettre deux bières, s'il te plaît? C'est prix libre, tu choisis entre 0 et 5 euros. Je vais te donner 0.
La mécanique de la comédie, eh bien, les réalisateurs la connaissent, hein, eux qui ont ramené 19 millions de spectateurs, voire intouchables. Le récit tient ses promesses et les réalisateurs ne sont jamais dans la caricature. Les attentes des militants sont grandes, leur engagement solide, leur action parfois violente et tout cela est observé avec bienveillance. Les réalisateurs s'amusent de certains caractères comme des Noëls que passe eh bien, le personnage de Noémie Merlan.
Tu sais ce que je leur ai offert à mes neveux au Noël dernier? Je leur ai dit, mes chéris, cette année, je vous offre toute mon estime et tous mes encouragements.
C'est fort. Hein. Ça va être tellement génial de passer un Noël avec toi.
Et c'est pas cher.
Et c'est pas cher.
Mais au-delà de cet exemple, ce n'est pas l'engagement qui prête à rire, hein, mais les situations dans lesquelles se retrouve le duo de surendettés. Au-delà de cet ancrage social et politique qui parlera beaucoup, le film est aussi eh bien, l'histoire d'une conquête amoureuse. Alors cette comédie a l'avantage d'être porteuse d'une histoire, de bien s'occuper de ses personnages et d'observer notre société. Toutes les cases sont cochées. Ce film nous donne l'occasion de jouer un blind test avec la filmographie de Jonathan Cohen. Alors, on avait déjà fait ça au mois de février 2023, donc c'était quand même tout proche. J'ai repris quelques films qu'on avait déjà sortis à cette occasion parce qu'il n'en a pas fait tant que ça en tant que, je dirais, acteur de premier plan. Mais il y a quand même quelques modifications, donc vous pouvez rejouer avec nous. Voici le premier extrait de ce blind test.
Vous savez quand même qu'il m'avait proposé de prendre une femme en chauffeur pour la parité. Alors une femme chauffeur, c'est peut-être bon pour la parité, mais c'est pas bon pour la rapidité, hein, hein. En même temps, se faire conduire par une femme, ça c'est excitant. Moi j'aime bien les femmes qui font les trucs d'hommes, moi. Femme flic, femme pompier, femme notaire, ou celle qui pose le parquet là. Oh, ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Là, ou celle qui soude. Je peux vous dire que là, c'est les seuls cas où la salopette, ça peut me faire bander. Les femmes. Elles vont nous prendre tous nos boulots, hein. Vous verrez, hein. Le grand remplacement, c'est celui-ci d'abord. Avant.
Alors c'est trouvé.
Et c'est donc en même temps.
Oui. Du duo Gustave Carverne et Benoît Delépine. À la veille d'un vote pour entériner la construction d'un parc de loisirs à la place d'une forêt primaire, un maire de droite décomplexé, c'est Jonathan Cohen, essaie de corrompre son confrère écologiste, mais ils se font piéger par un groupe de jeunes activistes féministes qui réussit à les coller ensemble. Seulement 125 000 entrées en France pour ce film qui mérite vraiment qu'on le voie. Deuxième extrait de ce blind test qui concerne la filmographie de Jonathan Cohen.
Le type sur le côté là, est-ce qu'on peut zoomer sur sa veste?
Lequel, celui-là?
Ouais.
J'ai l'impression que je vois quelque chose, patron.
Ok, zoomez sur sa veste, moi, c'est...
Ça va rien donner.
Je n'ai pas demandé si ça allait donner quoi que ce soit, j'ai demandé de zoomer. Voilà. Pas compliqué.
Voilà, bah,
hein. Ok, maintenant augmentez-moi la résolution d'au moins 1000%.
Je peux pas augmenter la résolution d'une image. Techniquement impossible.
Je l'ai vu faire des tonnes de fois.
Eh bah, peut-être dans des films, mais...
Non, pas dans des films, pas du tout. Dans la vie, tout simplement, on était sur une enquête. Moi, j'étais en duo avec une informaticienne, une Suédoise, un peu punk, mais fascinante. Et on avait réussi. C'était dans Millennium, effectivement. Bon, Maus, votre idée était nulle. Alors vous arrêtez maintenant.
Alors, ça a été trouvé.
Et c'est donc Sentinelle.
Oui, film alors de 2023, hein, de Hugo Benamozig et David Caviglioli. François Sentinelle mène une double vie. Le jour, il est flic sur l'île de La Réunion, mais il est aussi chanteur de charme. On lui doit le Kiki, son tube de jeunesse. Et une vague de crimes secoue l'île et il ne pense qu'à son nouveau disque. On lui associe un flic venant de la métropole, interprété par Raphaël Quénard, qui est tout son contraire. Ce film a été diffusé ce mois de septembre sur Prime Video. Et beaucoup d'internautes qui ne savent plus trop ce qu'est une comédie, habitués au formatage et à voir Jonathan Cohen à la télévision, ont descendu le film qui est pourtant d'une drôlerie vraiment revigorante.
Le film aurait mérité une sortie en salle en fait.
Allez, troisième extrait de ce blind test consacré à la filmographie de Jonathan Cohen.
C'est quoi ça ?
Qu'est-ce qui se
passe ? Putain, y a un rat ! Ah, j'ai marché sur un rat mort là ! Fais chier là ! C'est bon, allez, stop là !
Mais ça va pas ?
Non !
Quoi, faire la gueule, excuse-moi !
Je viens de marcher sur un rat mort !
Oui, et alors ? Je te rappelle que c'est ta faute si on est parti de chez Goku, hein. C'est
Pardon ?
Un super plan !
Non, 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 Marion, c'était pas un super plan.
Bah,
excuse-moi.
Si.
Eh, Marion, faut arrêter de trouver tout bien dans la vie, hein. C'était dégueulasse, c'était moche, la chambre, elle était horrible. Je suis sûr qu'elle a enterré tous les gars de sa famille là-bas, là. Arrête de rire parce que c'est vrai ce que je dis là. Excuse-moi, la plage, là, un ponton juste derrière une autoroute, c'est pas ça pour moi les vacances. Non, les vacances, c'est au minimum déjà un peu de sable propre, ok ? Et une eau qui ressemble pas à du coca, voilà.
C'est trouvé.
Et c'est donc Première Vacances.
Oui, film de Patrick Cassir avec Camille Chamou. Deux trentenaires font connaissance sur Tinder. Ils décident très vite de partir en vacances ensemble. Et c'est parti pour la Bulgarie. Un compromis pour Marion qui voulait aller à Beyrouth et Ben, lui, rejoindre Biarritz. Ben là, l'avantage, c'est que Jonathan Cohen est dans un rôle un peu différent de tout ce qu'il avait fait auparavant. Voilà, c'est moins la bête de foire.
Hein, je n'ai pas vu. J'ai vu le début, simplement.
Ah oui. Mais il est vraiment très bon, ce film. Hein. 304 000 entrées en France. Quatrième extrait autour de la filmographie donc de Jonathan Cohen.
Ça va, hein? T'es au spectacle? Tu veux une cerboise? Tu veux que je t'amène un siège? Bouge pas, je t'amène ça tout de suite. Non, je t'amène pas ça. Qu'est-ce que tu fais là?
La même chose que toi. Elle sait que tu l'observes en cachette? Je pourrais très bien lui dire.
Oh, elle est magnifique. Elle apprend à faire la lessive parce qu'elle sait qu'elle va avoir un quotidien plus rude en Gaule avec moi. Elle se prépare pour sa nouvelle vie.
Une princesse chinoise en Gaule avec des paysans? Laisse-moi rire.
Bon, et quand je te dis que Fouillé et moi, on est ensemble, tu n'entends pas? Tu es sourd, peut-être?
On n'est pas ensemble.
Si, on est ensemble. Ça fait 6 mois.
Ah bon?
Oh, c'est pas vrai! Bon, les amis, une bonne fois pour toutes, Fouillé et moi, c'est du sérieux, on s'aime, on va se marier.
Oh! C'est trouvé.
C'est Astérix.
Oui, et Obélix, l'Empire du Milieu, film de 2023 encore une fois, mais cette fois-ci sorti au cinéma de Guillaume Canet. Donc nouvel opus d'Astérix dans lequel Jonathan Cohen interprète Grain de Maïs qui est en rivalité avec Astérix pour épouser la princesse Fouillis qui a 20 ans. Alors que le film distille plein de messages sur le féminisme, hein, le renversement des codes, et bien tout le scénario est bâti là-dessus, deux quarantenaires ayant l'espoir de conquérir une jeune femme de 20 ans. Voilà, 4,6 millions d'entrées en France pour ce film qui a coûté 75 millions d'euros, on le rappelle. Dernier extrait de ce blind test.
Cette femme donc, m'a proposé de devenir parrain de son fils.
Et t'as accepté? Bah, ça va nous encombrer, on n'a pas vraiment besoin de ça, non? Voilà. Tu déclines parce que t'auras jamais le temps de t'en occuper, ça sert à rien, c'est une mauvaise idée.
Pourquoi c'est une mauvaise idée? Enfin, c'est pas compliqué à...
Je sais pas, t'imagines que les deux parents ils meurent dans un accident d'avion?
Mais ah, faut arrêter. Personne ne meurt comme ça, hein.
Bah si, les gens meurent. Imagine qu'on a sur le dos cet enfant.
Bah, on va faire comme tous les autres parents, on va...
J'aurais très bien pu avoir un enfant si je voulais, sauf que si c'est pour pas m'en occuper, je vois pas l'intérêt.
Si tu trouvais un enfant par terre dans la rue, tu le laisserais par terre?
On a une vie qui est pas faite pour ça, tu vois ce que je veux dire? S'il passe les trois quarts de sa vie avec un babysitter, je vois pas l'intérêt. C'est pas une vie pour un enfant. On en a parlé plein de fois.
Oui.
Y a pas de place pour un enfant dans notre vie.
Bah, il y avait plein d'indices. Hein. La séquence était beaucoup plus longue que ces 50 secondes, mais ça a été trouvé.
Donc c'est énorme de Sophie Letourneur.
Oui, film de 2020, 40 ans, Frédéric veut un bébé. Claire, elle n'en a jamais voulu, on l'entend bien. Et ils étaient bien d'accord là-dessus. Mais il commet l'impardonnable, elle lui fait un enfant dans le dos. Claire se transforme en baleine et Frédéric devient gnangnan. Jonathan Cohen a été nommé au César du meilleur acteur pour ce film, mais il ne l'a pas eu. En aura-t-il un jour? On ne sait pas. 132 000 entrées en France pour ce film.
Alors,
c'est fini l'heure des visites, on va fermer. Du large.
Quoi?
Vous avez délivré le message, adieu.
C'est une idée fantasque.
Terminé pour aujourd'hui.
J'ai passé un très bon moment.
C'est vrai?
Il ne me reste que vous remercier de votre générosité.
La semaine prochaine, on se retrouve avec plutôt des grands réalisateurs.
Et notamment Martin Scorsese avec son nouveau film Killers of the Flower Moon.
Je vous parlerai aussi du dernier Ken Loach, du dernier Albert Dupontel et puis nous parlerons aussi du dernier film de Tariq Boudali, 3 jours max, à la semaine prochaine.